Ouverture, une émission proposée et animée par Christine Baron.
Au moment d'ouvrir la quatrième de couverture du mois de mars, on a cru entendre une toute petite voix. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Un mouton ? Mais oui, pas besoin d'aller plus loin. On a tous reconnu le plus célèbre des enfants de papier. Un petit bonhomme tout à fait extraordinaire, à mille lieues de toute région habitée, écrivait Antoine de Saint-Exupéry, en dédiant le petit prince à toutes les grandes personnes qui ont d'abord été des enfants. Et le manuscrit de ce livre, le plus traduit dans le monde, vient d'arriver en France pour la première fois. 141 feuillets originaux, exposés jusqu'au 26 juin au Musée des Arts Décoratifs à Paris. À la rencontre du Petit Prince, enchantera tous ceux qui lisent ou relisent ce récit merveilleux, commandé aux États-Unis en 1942 et publié en France en 1946. Le plus universel des contes, l'œuvre d'un écrivain, poète, aviateur, philosophe, connu dans le monde entier, le best-seller absolu du XXe siècle, dont le succès échappera à son auteur, qui périra aux commandes de son avion en 1944. Mais nul n'a oublié non plus la délicate silhouette dessinée par Saint-Exupéry, puisqu'il avait lui-même illustré son récit, des aquarelles qui traversent les décennies sans prendre une ride, pures comme des dessins d'enfants, reconnaissables entre mille. Si vous voyagez un jour en Afrique dans le désert, si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a les cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu, concluait ainsi Antoine de Saint-Exupéry. Eh bien, le voilà revenu en 2022. On peut l'écrire à Saint-Exupéry, peut-être. Écrire, voilà bien ce qui nous occupe ce mois-ci dans la quatrième de couverture de mars. Et tout nous y ramène. Ce manuscrit, les brouillons, les stylos, les crayons de couleur de Saint-Ex, tout nous donne envie d'écrire, nous aussi. Parce que, même à la radio, l'écriture a toute sa place. L'essentiel est invisible pour les yeux, ben c'est tout à fait ça la radio. On ne voit pas, on écoute, on imagine. Et puis, en mars, l'écriture et la poésie seront mises à l'honneur. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans cette émission de mars, la 28e émission ? Eh bien, un petit retour sur ce qui nous a touchés le mois dernier, quelques confessions littéraires autour de l'écriture, piochées ici ou là et lues par Raphaël, le point de vue d'une thérapeute qui aide les enfants à trouver le geste juste pour écrire, c'est Caroline Legris, une graphothérapeute. Enfin, quelques suggestions pour profiter pleinement du mois de mars et du printemps qui s'annonce. Alors vite, à vos crayons, à vos plumes, à vos stylos, on sort les carnets, les cahiers, les calepins et on ouvre la quatrième de couverture de mars sur Radio Albatros. En février, on a donc pu découvrir enfin le manuscrit de Saint-Exupéry, les textes et les dessins. Et en février, il a été beaucoup question des Jeux Olympiques, accueillis dans cette Chine lointaine, où l'écriture s'apparente, pour nous qui en ignorons tout, à une succession de dessins mystérieux, des caractères graphiques tout à fait énigmatiques pour les non-initiés. Mais ce sont des images porteuses de représentations primitives héritées d'un passé lointain. Une main, un arbre, le vent, le ver à soie, la lune, un tigre. Des siècles et des siècles de culture sont transmis dans ces pictogrammes, ces idéogrammes chargés de sens et superbement calligraphiés au pinceau. Ce sont de véritables œuvres d'art auxquelles certains s'adonnent, avec patience, en dehors de toute préoccupation linguistique, pour le plaisir de la forme, pour l'élégance des courbes, des pleins et des déliés. Les calligraphes d'aujourd'hui se plaisent à dessiner les lettres comme des œuvres d'art, quelle que soit la langue ou l'alphabet pratiqué. Dans un tout autre domaine, on peut admirer aussi des partitions musicales qui sont comme de belles illustrations graphiques, même et surtout si on est incapable de les déchiffrer. Eh bien, la danse, elle aussi, possède ses propres notations chorégraphiques qui permettent de transcrire les mouvements avec précision sur des sortes de portées verticales. Et différents systèmes existent évidemment. C'est ainsi que la première transcription intégrale de l'Ulysse de Jean-Claude Galota, le danseur, le chorégraphe, présentée au Volcan du Havre l'automne dernier, avait adopté la notation Laban, du nom de son inventeur, et le théâtre avait eu la bonne idée d'en diffuser une illustration lors du spectacle. Là encore, la représentation graphique minutieuse, mêlant pour le plus grand des mystères des formes géométriques, des triangles, des rectangles, des carrés, avec des croix, des flèches, reste indéchiffrable pour les béotiens. En février, une autre notation mystérieuse, une fois de plus, a eu les honneurs des infos culturelles. C'était l'écriture du diable. C'est ainsi que Charles Dickens qualifiait le code proche de la sténo qu'il avait mis au point pour gagner du temps et en faire perdre à ceux qui se sont arrachés les cheveux pendant des années en cherchant à déchiffrer ce fameux manuscrit. Rédaction accélérée ou rédaction confidentielle, la brachigraphie personnelle de Dickens, c'est-à-dire l'art d'écrire par abréviation, a été enfin décryptée en février, après 160 ans de recherche, et le code a été craqué par un jeune informaticien américain. En février, un autre manuscrit a été publié plus de 75 ans après la mort de son auteur. Ce sont des poèmes inédits de Robert Desnos, complétés par ses propres illustrations et rassemblés par la revue L'Étoile de mer, l'association des amis de Robert Desnos. Et en voilà un, chanté par Juliette Gréco.
Justement. Pas gué, mais c'est quand même comme ça. Aussi faire. C'est ça, c'est une chanson qui a été écrite par Robert Desnos et par Joseph Kosma. C'est une toute petite chanson. Elle s'appelle La fourmi.
Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais. Oh, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourquoi? Pourquoi? Pas.
Une fourmi, des pingouins, des canards et un mouton. Eh bien, quoi d'autre en février? Eh bien, des micros. Des micros et des bandes magnétiques. Des enregistrements au cinéma. On a ainsi suivi sur les écrans un journaliste américain qui traversait les États-Unis micro et enregistreur en bandoulière pour collecter la parole de la jeunesse américaine sur leur vision du futur dans une grande enquête de la Californie à la côte Est. Un beau prétexte pour se perdre dans la vision esthétique du pays magnifié par les images en noir et blanc de Mac Miles. Un noir et blanc lumineux et velouté, comme celui des vieux films qu'on redécouvre toujours avec gourmandise. Mais là, c'est un film de 2021. C'était « Nos âmes d'enfants ». Les âmes d'enfants des jeunes héros anonymes. Et les âmes d'enfants, c'était celle aussi du personnage principal, interprété par Joaquin Phoenix, que la cinquantaine n'empêche pas de s'émerveiller sans cesse devant le monde qui l'entoure. En février, un autre film a mis les micros et les enregistrements à l'honneur, et des enregistrements sur cassette. Vous savez, ces bonnes vieilles cassettes qu'on glissait dans l'appareil phare des années 80. On était dans ce film entre littérature et écriture, passion et amour fou. C'était chez Marguerite Duras, sans elle, pour un film qui ne parlait que d'elle. « Vous ne désirez que moi », c'est le titre du film magnifique que Claire Simon a réalisé à partir de la transcription mot à mot des entretiens que Michel Manceau, la journaliste, avait enregistré avec Yann Andrea en 1982, le dernier amant de Marguerite Duras. Avec un Swann Harlow bouleversant, une Emmanuelle de Vos souveraine, des archives étonnantes, un grand film de cinéma avec, dans chaque plan, un micro omniprésent au premier plan. Des micros en février, il y en a toujours sur Albatros et vous pouvez retrouver les émissions précédentes de la quatrième de couverture mensuelle ou les derniers hebdos. En février, vous retrouverez un hebdo sur une déambulation littéraire au milieu des statues du musée des pêcheries à Fécamp. Un hebdo feuilleton réalisé par la compagnie de théâtre Actée en collaboration avec des EHPAD du Havre. Ou enfin la découverte d'une toute nouvelle librairie jeunesse ouverte au Havre, les 400 coups. Et ces podcasts vous attendent sur le site de Radio Albatros. Alors des livres pour enfants, un conte philosophique imaginé par un aviateur poète, un autre poète résistant et déporté, dont la fantaisie nous émeut encore, des manuscrits, des codes d'écriture, des alphabets de toutes sortes, de quoi combler notre envie de lire et d'écrire. Et les écrivains. Les écrivains, que disent-ils sur leur goût pour lecture, sur leur plaisir de noircir une feuille blanche ? On a demandé à Raphaël de nous lire quelques-unes de leurs confessions. Et c'est Flaubert qui partage avec Louise Collet sa passion dévorante pour l'écriture en 1852.
Quelle bonne journée j'ai passée, jeudi et vendredi. Jeudi soir, à 2h du matin, je me suis relevée et j'ai travaillé jusqu'à midi. J'avais une rage de style au ventre, à me faire aller ainsi le double du temps encore. Le vendredi matin, quand le jour apparut, j'ai été faire un tour de jardin. Il avait plu. Les oiseaux commençaient à chanter et de grands nuages ardoises couraient dans le ciel. J'ai joui là de quelques instants de force et de sérénité immense dont on garde le souvenir et qui font passer par-dessus bien des misères. J'éprouve encore l'arrière-goût de ces 36 heures olympiennes et j'en suis restée gaie comme d'un bonheur. Flaubert à Louise Collet, le 18 juillet 1852.
Difficile d'égaler Gustave Flaubert dans son appétit féroce pour l'écriture. On voit s'ouvrir ça et là des ateliers d'écriture qui promettent aux écrivains en herbe d'affiner leur style, de perfectionner leur plume, de trouver leur voix. Si les techniques d'approche varient, réécriture, procédé oulipien, expression de soi, thérapie de groupe, etc., les ateliers d'écriture n'emportent pas l'adhésion des écrivains. Pour Régine Détambel, auteure en 2015 de « Les livres prennent soin de nous » et formatrice en bibliothérapie créative, les ateliers favorisent l'expression artistique.
J'aime essayer de montrer que l'écriture ne vient pas comme ça, par pure inspiration. Trop de personnes croient qu'on devient écrivain du jour au lendemain. On ne naît pas écrivain, la langue ça se travaille. L'atelier permet aussi d'être lu, de se sentir reconnu.
Michel Tournier, lui, ne croit pas du tout à l'apprentissage de l'écriture.
L'écriture, pour moi, s'apprend en lisant, en écrivant, en traduisant aussi. L'idée d'apprendre l'inspiration me paraît risible.
Et Philippe Solers n'y croit pas plus, à son tour.
C'est une illusion complète de penser qu'on peut apprendre à écrire, de faire semblant de croire que tout le monde peut être écrivain. L'écriture ne s'apprend pas. Elle est solitaire, sexuelle, personnelle.
Et justement, on a retrouvé un texte que Philippe Solers avait publié en 2014 dans Le Monde. Lui, l'amoureux de Venise, il faisait l'éloge de son stylo par cœur et dévoilait ses rituels d'écrivain devant la page blanche.
J'aime les stylos par cœur, de taille moyenne, ni trop grand, ni trop petit. Les miens sont à plumes, avec une pompe à encre bleue et le logo de la marque qui rappelle que les mots sont comme des flèches. D'ailleurs, il sort du sang de cette pompe. Et lorsque je remplis mon stylo, c'est comme si je me piquais avec une drogue puissante. J'ai choisi ces plumes en particulier car elles glissent parfaitement sans faire de bruit sur le papier velouté et à gros carreaux de mon cahier Clairefontaine à spirale. Toujours le même. J'ai fait une grande provision d'encre bleue à Venise en imaginant qu'elle serait imprégnée de l'air de la lagune. J'écris d'abord au stylo, puis je tape le texte à la machine à écrire. L'écriture fonctionne comme un indicateur de mon état de santé. Quand je vais bien, je peux écrire très longtemps et sans rature. Quand je vais mal ou que je suis malade, j'écris très peu de temps. Il faut être capable de se déconnecter de ce à quoi l'on veut nous connecter. Plus le monde se précipite dans le digital, plus je me tiens à l'écart. Loin des tweets et des blogs. Pourtant, cela ne m'empêche pas de me renseigner sur mon époque. Écrire à la main est l'acte réfractaire d'un déserteur de la communication. Cette vie clandestine me permet de mieux analyser ce monde plus froidement. Les gens ont souvent du mal à se souvenir de ce qu'ils ont lu la veille. La littérature ne laisse plus suffisamment de place à l'imagination du lecteur. Elle préfère trop souvent des histoires cinématographiques. Ce stylo appartient à une époque révolue, celle où les ordinateurs n'existaient pas. Celui-ci en particulier me sert à prendre des notes. Un mot, une expression ou une phrase qui me rappelleront une situation, le son d'une voix, un geste et déclencheront une idée ou un paragraphe. J'aime écrire le mot « mort » et le mot « mot ». Leur proximité orthographique est comme un défi que le mot lance à la mort.
Merci Raphaël pour ces lectures et merci Francis Poulenc. Le stylo de Philippe Solers appartient, dit-il, à une époque révolue où les ordinateurs n'existaient pas. Eh bien, pourtant, aujourd'hui, de nombreux thérapeutes accompagnent des enfants pour qui l'usage du stylo pose problème. Et en mars 2021, on avait rencontré Caroline Legris, une graphothérapeute, qui nous avait parlé de son métier. Bonjour Caroline Legris.
Bonjour Christine.
Évidemment, tout de suite, on a envie de vous demander de nous expliquer ce mot, que recouvre ce mot de graphothérapeute.
Alors, la graphothérapie, c'est la rééducation du geste d'écriture. Et donc, c'est ce qu'on pourrait un petit peu comparer à l'orthophonie pour la lecture. La graphothérapie permet d'aider des enfants dans leur phase d'apprentissage de l'écriture manuscrite, dans le geste d'écriture.
Alors, geste d'écriture, on est dans votre cabinet, là, je vois des lettres, un grand tableau, des lettres sur les murs,
une plaque avec justement un stylet qui permet de reprendre le tracé des lettres, de l'ensemble des lettres de l'alphabet. Chaque lettre a son dessin, bien entendu. Mais beaucoup de formes se retrouvent dans les lettres et donc on cherche avec l'enfant à lui faire automatiser ce geste.
Et est-ce que, par curiosité, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a des lettres qui sont plus difficiles à dessiner?
Ouais. Ah oui, bien sûr. Alors, en fait, il y a déjà deux grandes catégories de lettres. Il y a les lettres rondes et les autres. Les six lettres rondes, ça c'est un des points de départ capital, un des plus importants vraiment dans l'écriture, c'est de savoir qu'il y a six lettres, le A, le C, le D, le G, le O et le Q, pour lesquels on doit lever le stylo pour tracer un rond. Voilà.
On apprend à tout âge.
Voilà. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est méconnu. Et puis, il y a les autres lettres. En fait, je dirais peut-être pas les plus difficiles, mais en tout cas, les plus simples sont celles qui vont utiliser la boucle. Donc, le E, le L, la petite boucle et la grande boucle. Toutes les lettres qui sont dérivées de ces boucles sont les lettres, on va dire, de base dans l'apprentissage de l'écriture. Donc, on travaille souvent au départ, même sans stylo. On va déjà comprendre comment se fait une boucle avec son corps, avec sa main, Et ensuite, on va utiliser un outil scripteur. Bon, voilà, c'est un peu du vocabulaire technique, mais on va utiliser l'outil pour laisser sa trace. Voilà. Et donc, en graphothérapie, c'est d'aider l'enfant à comprendre comment, avec sa main, il va maîtriser un geste pour laisser une trace. Écrire, c'est laisser sa trace.
Voilà. Oui, alors là, évidemment, en quatrième de couverture, on est tout à fait conquis. Écrire, c'est laisser sa trace. Donc, vous dites, les enfants, vous travaillez exclusivement avec des enfants.
Oui, alors, c'est encore assez rare que des adultes s'adressent à des graphothérapeutes ou à des rééducateurs de l'écriture, mais ça peut être le cas. Il y a des praticiens qui peuvent être spécialisés dans cette approche-là, donc pour les personnes qui peuvent être victimes d'un accident, d'un AVC, ou qui parfois aussi, n'aiment pas leur écriture. Il y a beaucoup de gens, oui, effectivement, qui ne sont pas en phase avec ce que reflète leur écriture, l'image qu'ils donnent d'eux.
D'accord.
Voilà.
Oui.
Donc ça, c'est pour les adultes. Mais alors, pour les enfants, la graphothérapie, la rééducation de l'écriture, se situe toujours après la phase d'apprentissage à l'école. Donc, on attend que l'enfant ait fait au moins son CP, puisque c'est important de ne pas interférer sur ce que les enseignants mettent en place dans le cadre scolaire.
Oui, d'accord. Donc, les enfants viennent ici sur les conseils d'un enseignant.
Alors, ça peut être, oui, effectivement, les conseils de l'enseignant. Ça peut être, c'est souvent le cas. C'est souvent l'enseignant qui, à partir du CE, fin de CE1, CE2, voire même bien plus tard, ça peut être au collège, se rend compte qu'il y a un problème dans le geste d'écriture. Alors, les trois problèmes majeurs, c'est une illisibilité de l'écriture. Donc, ça, c'est le premier enjeu de l'écriture. L'écriture, elle doit être lisible. C'est son objectif. Le deuxième problème, ça va être des douleurs ou un inconfort dans l'écriture. Et le troisième problème, c'est une vitesse problématique. Donc, la vitesse, souvent, c'est une lenteur. En général, quand il y a une vitesse excessive, ça va dénaturer l'écriture, ça va provoquer de l'illisibilité. Mais souvent, on est confronté avec des enfants qui ont une écriture trop lente. Donc, c'est soit les enseignants qui tirent la sonnette d'alarme en disant « là, votre enfant va être en difficulté dans la suite de ses apprentissages », soit aussi, c'est souvent le cas de parents qui cherchent à vraiment aider leur enfant. Et parfois aussi, c'est un problème donc de manque de lisibilité, d'inconfort, de lenteur, mais ça peut être aussi quelque chose qui est plus de l'ordre du refus d'écrire, un petit peu comme un blocage dans l'écriture. Le fait de ne pas être dans un geste qui est agréable à réaliser, en fait.
Merci Caroline Legris. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de notre entretien dans les podcasts de la quatrième, l'hebdo, sur le site de Radio Albatros. C'était en mars 2021, la semaine 12. Et que fera-t-on, nous, en mars 2022, si on veut, nous aussi, laisser une trace? Eh bien, on aura l'embarras du choix. Mars sera le mois de l'écriture, de la poésie et de la fantaisie. Quel beau programme! D'abord, pour sa 12e édition, le concours de nouvelles de la ville du Havre invite tous ceux que l'écriture passionne à envoyer un texte de 3000 mots maximum sur le thème du bruit. Tous les talents sont invités à envoyer leur texte avant le 24 mars. Enfants, ados, étudiants, écrivains en herbe, à vos stylos ou à vos crayons ou à vos claviers, et toutes les infos sont sur le site du concours de nouvelles du Havre. En mars, on fêtera partout la langue française et la francophonie du 12 au 20. Célébrer les mots, la langue, voilà une fête qui nous enchante. Des concerts, des dictées, des ateliers de calligraphie, du théâtre, des conférences et l'invitation à s'exprimer, à jouer avec les mots pour valoriser la langue française. Dis-moi 10 mots, c'est le nom du dispositif qui vous invite à phosphorer sur le thème de l'étonnement jusqu'au mois de juin. À partir de 10 mots saugrenus ou mystérieux qui sont imposés, parmi lesquels décalé, divulgaché, ébaudi, saperlipopette et tous les autres qui vous attendent sur le site de l'événement Dis-moi 10 mots. Enfin, en mars, c'est la poésie qui sera à l'honneur avec le printemps des poètes. Et son nouveau thème, qui invite à l'urgence de vivre, de se réjouir de l'instant, le thème de l'éphémère. La belle affiche, une danseuse en robe de soirée qui emporte dans son sac à dos un arbre, est tirée d'un ballet de Pina Bausch. Elle invite chacun à participer à des rencontres autour du thème de l'éphémère, à en organiser, à écrire soi-même ou tout simplement à relire de la poésie pour fêter l'arrivée du printemps. Bref, à faire du mois de mars un mois d'exception. Et puisqu'on avait ouvert cette quatrième de couverture avec un conte plein de poésie, Le Petit Prince, on se quittera en relisant un autre conte plus récent qui célèbre, lui, les mots, la langue et l'écriture. C'est celui qu'Éric Orsenna, le grand voyageur et amoureux des mots, avait écrit en 2001. « La grammaire est une chanson douce », une fantaisie joyeuse où Jeanne, la jeune narratrice, se retrouve sur une île merveilleuse après un naufrage. Seule rescapée avec son frère, elle découvre que les lettres, les mots, ont survécu comme des milliers de poissons argentés autour de cette île aux mots, où Monsieur Henri, un petit monsieur basané à la voix douce, leur servira de guide. Une île qui abrite, qui cache même, trois écrivains qui poursuivent en secret leurs travaux. Marcel, Jean et Antoine. Marcel Proust, Jean de La Fontaine et Antoine, eh bien oui, celui du Petit Prince, Saint-Exupéry. La boucle est bouclée. Et pourquoi Orsenna a-t-il choisi ce titre pour son conte ? Parce que Monsieur Henri, le guide des petits naufragés, leur chante souvent une histoire où il est question d'un loup, d'une biche et d'un chevalier. Oh, le joli conte que voilà !
Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi, car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La 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 la. La petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Une chanson douce pour tous les petits enfants, une chanson douce comme chantait ma maman. Oh, le joli conte que voilà, la biche en femme se changea, la 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 la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie.
Vous aviez bien sûr reconnu Henri Salvador derrière le Monsieur Henri qui chante cette chanson douce pour consoler les petits naufragés dans le conte d'Éric Orsenna. Et là, c'est Berlin Navillier qui a livré sa version personnelle du grand succès d'Henri Salvador. Alors, en attendant le retour du printemps, lisez les poètes, chantez-les ou prenez la plume et rendez-vous le 4 avril pour la 29e édition. Merci Joanne, toujours fidèle aux manettes et au revoir.
C'était la quatrième de couverture, une émission proposée et animée par Christine Baroux.